Bonjour mes frères et sœurs. Nous allons aborder un sujet un peu épineux ce soir afin de rétablir la vérité et que bien des chrétiens cessent d'être troublés. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire dans 1 Corinthiens 3, 20, 23 pour commencer. Je fais la lecture. 1 Corinthiens 3, 20, 23. Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Cephas. Et il dit, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. C'est vrai que tout est à nous, parce que Dieu pourvoit aux besoins des siens. Il est comme un fleuve qui tarit pas, il répand ses dons sur nous et toutes choses, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient spirituelles, toutes choses, que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, la nourriture, les richesses de la terre, les richesses de sa grâce, tout est à nous. Tout est à nous en surabondance infinie, mes frères et sœurs. Tout est à nous, c'est-à-dire à notre esprit et à notre corps. Et nous sommes faits à son image. On a vu ça dimanche passé. Étant faits à son image, j'aimerais savoir ce que vous pensez au sujet de la liberté de Dieu. Est-ce que Dieu est libre? Oui. Il est tellement libre qu'il donne son amour à qui il veut. Et son amour attire notre amour. Et c'est un amour inconditionnel. L'esprit qui est en moi, c'est mon véritable moi. Je suis un esprit prédestiné à vivre dans un corps, dans une enveloppe matérielle, comme vous. Et comme il est mon père, comme je suis issu de lui, il y a un lien entre son esprit et mon esprit. Il y a un lien entre votre esprit et son esprit, parce que vous êtes issu de lui. En fait, mon esprit veut les mêmes choses que ce qu'il veut lui. Votre esprit d'enfant de Dieu veut les mêmes choses que ce que l'esprit de votre père veut. Mais, dans ma condition mortelle, j'ai comme tout le monde l'impression de choisir. J'ai l'impression d'être capable d'accepter ou de rejeter. Mais mes frères et sœurs, ce n'est qu'une impression. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Et comme tous, aussi bien ceux de la semence de Dieu que de la semence du serpent, nous avons cette impression. Mes choix me semblent bons, sinon je choisirais pas cela. Et ceux de la semence du serpent, ils s'imaginent aussi faire les bons choix dans leur vie. Voilà pourquoi, par exemple, ils se moquent de nous quand on veut suivre le Seigneur Jésus. Ils sont sûrs que leur choix est meilleur que le nôtre. La semence divine et la semence du serpent sont ici-bas dans un but. Dieu a tout fait pour un but, nous dit la Bible. Maintenant, souvenez-vous que Dieu est hors temps. Il est aussi bien au moment présent qu'au moment que nous jugeons être le passé. Et même il est dans l'avenir. Ce qui ne nous est pas encore connu, il le connaît. Et il ne sent pas ce que nous appelons il ne se sert pas de ce que nous appelons les souvenirs pour regarder le passé. Pas du tout. Pour lui, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Ce qui est vrai, la réalité, c'est ce qui est devant Dieu, au regard de Dieu, selon sa vision à lui. Et pour nous, eh bien, nous vivons dans un monde limité où il y a des codes et où nous avons l'impression, par exemple, de choisir. Où nous avons l'impression, par exemple, qu'il y a un passé, qu'il y a un présent, qu'il y a un avenir. Alors, c'est un mystère. Et les incroyants ne peuvent pas le croire, et même les croyants ont de la peine à croire cela. Pour croire que Dieu est omniprésent dans l'espace, aussi bien que dans le temps, il faut vraiment la foi, il faut l'accepter. Or, nous avons vu que nous sommes tous doués de foi, je vous le disais dimanche passé. Il nous suffit donc juste de placer notre foi, c'est-à-dire notre croyance, dans ce qui est la vérité. Maintenant, je vous rappelle, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Si vous placez votre croyance en Jésus, si vous placez votre croyance dans la vérité, alors, eh bien, les choses vont se mettre au clair et même votre intelligence pourra saisir un peu de ce mystère. Question, quelqu'un peut-il choisir de devenir un enfant de Dieu sans que le Père ne le veuille? vous qui connaissez la Bible, vous voyez bien, hein, vous savez bien que non. La Bible nous enseigne que nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire. Mais alors, pourquoi avons-nous l'impression de choisir, par exemple, la vie plutôt que la mort, le bien plutôt que le mal? Si tout ça, c'est Dieu qui décide. C'est juste pour que les œuvres qui ont été préparées d'avance par Dieu soient accomplies dans ce système créé et limité, avec des codes, dans une limitation. Certaines choses sont faites par les fils de Dieu et certaines autres sont faites par les fils du serpent. Est-ce que vous connaissez le verset qui affirme que celui qui est de Dieu ne pêche pas? C'est un verset qui a choqué, qui continue à choquer beaucoup de monde et beaucoup de chrétiens quand ils passent là-dessus. Oh là là, ils passent vite parce que ça leur fait peur. On va lire 1 Jean 3, 4, 10. Écoutez bien. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les fils des enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Ça, c'est un verset qui m'a terrorisé au début de ma vie chrétienne parce que je ne pouvais pas dire que je ne péchais pas. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Jésus est paru pour ôter le péché. Croyez-vous qu'il a ôté le péché de votre vie? On peut dire oui sans trop réfléchir, mais on peut dire oui en réfléchissant. Celui qui pratique, qui se livre au péché, il dit là, il n'appartient pas à Dieu. C'est ce que ce texte affirme clairement. Croyez-vous que quand vous faites une chose contraire à la loi de Dieu, croyez-vous que vous péchez? Alors écoutez bien, moi je vous dis, étant enfant de Dieu, vos péchés, vos erreurs sont ôtés. Ôtés de quoi? Ôtés de la vue de Dieu. Dieu ne les voit pas. Aux yeux de Dieu, vous ne péchez pas. Vous ne pouvez pas pécher. Ce qu'il dit là, hein? Question. Connaissez-vous une seule personne qui sur la terre ne pêche pas ou ne peut pas pécher? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Quand on regarde avec la connaissance que nous avons héritée de Adam et Ève, la connaissance du bien et du mal, on est obligé de dire non, je ne connais personne qui ne peut pas pécher, qui est dans l'impossibilité de pécher, qui n'y arrivera pas, même si vous voulez, il ne peut pas. Le contraire de pratiquer le péché, c'est de pratiquer la justice. Ah, on voit un peu se dessiner l'idée. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, verset 10. Et puis il prend un exemple. Caïn, il ne prend pas n'importe quel exemple. Caïn tua son frère Abel. Et pourquoi? Il le dit. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Quelles œuvres? Quelles œuvres? Le sacrifice qu'il avait fait? Ou quelles œuvres? Maintenant, Abel pratiquait des œuvres de justice. Pourquoi? Parce que Abel était juste, verset 12. Ce qui signifie que Caïn ne l'était pas. Et pourquoi il ne l'était pas? Le juste fait toutes ses œuvres en Dieu. Ça, c'est Jean 3, 20 qui nous affirme ça. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et tous les chrétiens disent Amen sans réfléchir. Il faut réfléchir. Mes frères et sœurs, ça veut dire quoi ce texte? Écoutez bien, écoutez, je répète. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Quelqu'un qui vient à la lumière, c'est qu'il est dans les ténèbres et il vient à la lumière. Et voilà, celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. C'est-à-dire, celui qui agit selon la vérité sort des ténèbres et il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Quelles œuvres? Les œuvres qu'il pratiquait avant. Les œuvres qu'il faisait dans le monde. Ses péchés. Je répète, celui qui agit selon la vérité, et qui est donc dans les ténèbres, vient à la lumière. On ne peut pas venir à la lumière si on y est déjà. Pourquoi il vient? Pour que ses œuvres soient manifestées, montrées. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Quelles œuvres? Celles qui étaient faites dans les ténèbres. Expliquez-moi ce verset autrement. Donnez-moi une autre signification. Mes frères et sœurs, avant de venir à la lumière, à Jésus, j'étais dans les ténèbres de ce monde. Et je pratiquais les mêmes choses que tout le monde. Je péchais comme ceux de la race du serpent. Cependant, Dieu dit là que nos œuvres, à nous les enfants de Dieu, qui sommes venus dans la lumière, elles étaient faites en lui. Le texte dit que, chronologiquement, hein, j'agissais selon la vérité dans les ténèbres. Et deuxièmement, je suis venu à la lumière pour que mes œuvres soient manifestées. Troisièmement, je suis venu donc pour qu'elles soient manifestées, pour qu'elles soient exprimées, pour qu'elles soient démontrées publiquement. Et le texte dit que ces œuvres-là avaient été faites en Dieu, Jean 3, 21. Donc, dans ma vie passée, j'ai fait, sans le savoir, ce qu'il fallait pour que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde et qu'il en tire gloire. Parce que je suis son enfant, il me voyait déjà juste. Et il a tiré gloire devant les anges publiquement pour que ça soit manifesté devant les anges, devant les hommes, devant les femmes, devant les démons, devant les enfants. Il a tiré gloire en me purifiant de ces choses dans ce monde limité. Mais déjà, dès avant la fondation du monde, le sacrifice avait eu lieu. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas eu un moment où ça s'est passé. Le moment où ça s'est passé, c'est il y a 2000 ans sur la croix à Golgotha, mais dans la pensée de Dieu, ça a toujours été. Les siens sont purs. Et à partir de ce moment-là, il a ôté mon péché, parlons humainement, mon péché passé, mon péché présent, mon péché futur, il a ôté. Et c'est pourquoi celui qui est né de nouveau ne pèche pas. Quoi qu'il fasse, aux yeux de Dieu. Maintenant, attention, une personne de la semence du serpent peut pervertir cette connaissance. Il y a deux manières de pervertir cette connaissance. Premièrement, en condamnant ceux qui pêchent, en leur disant qu'ils sont du diable, on se sert de ce qui est écrit là, on les condamne, voilà, vous êtes du diable, vous avez péché, vous êtes du diable. Ou alors, on peut la pervertir en disant, faites donc ce que vous voulez, de toute façon, Dieu vous aime, quoi que vous fassiez. Ça, c'est une perversion aussi. C'est une perversion de la connaissance. La vérité, c'est autre chose. Celui qui est habité par la semence de Dieu qui demeure en lui, celui-là, il sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Jérémie 15, 19. C'est-à-dire, il se sépare de la condamnation qui semble logique pour s'approprier le cadeau de Dieu, c'est-à-dire la grâce. Ce qui est vil, c'est de résister au Saint-Esprit. Ce qui est vil, c'est de ne pas croire dans l'amour infini de Dieu qui t'a choisi et qui ne te rejette pas. C'est ça qui est vil. Ça, c'est vil. Et si tu persistes là-dedans, ça va devenir le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est une résistance contre le Saint-Esprit. C'est renier l'amour de Dieu. Et c'est mourir dans le péché. Puisque tu renies que Dieu t'aime au point de t'avoir pardonné tous tes péchés. Le message, il est donné à tous, mais seuls les prédestinés reçoivent ce message par la foi. C'est pourquoi Jean dit, c'est à cela qu'on reconnaît les fils de Dieu et les fils du diable. Celui qui pratique la justice croit en la miséricorde de Dieu et il vit par la foi dans la grâce de Dieu, malgré ses imperfections, malgré ses erreurs, malgré ses péchés. Abel, il ne pouvait pas être autre chose que ce qu'il était, c'est-à-dire juste. Est-ce que Abel ne faisait jamais de bêtises? Est-ce que Abel ne péchait jamais? Pas aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, il était juste. et Caïn, qui était du malin, selon 1 Jean 3,12, ben, il faisait les œuvres de son père. Il pouvait même pas croire. C'était pas dans sa nature. Les fils du diable, ils agissent comme leur père, c'est-à-dire de leur propre fond. Ils ne peuvent pas se tenir dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Jean 8, 44. Les fils du diable ne peuvent même pas écouter la parole de Dieu. Ils ne le peuvent pas. Leur nature démoniaque les empêche. C'est contre leur nature. Jésus dit, celui qui pratique le péché est du diable. Jean, pardon, dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et il continue en disant, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Quelles œuvres du diable? Les œuvres du diable, c'est la résistance à Dieu. Jésus est venu détruire cette résistance, cette opposition, cette adversité active. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas juger selon le principe de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Non. On doit voir comme Dieu voit. Dieu voit quelle est la nature de celui ou de celle qui agit. Nature justifiée, juste, comme Abel, ou nature pervertie, fausse, religieuse, comme Caïn. C'est donc aux yeux de Dieu que le juste, que le justifié ne pêche pas. Si tu as foi en ça, tu es entré dans sa sanctification. Jésus est devenu ta sanctification. Et tu es au bénéfice de ce que Jésus déclare. Que déclare-t-il? Vous êtes purs. Jean 13, 10. Je vous ferai remarquer que Jésus a dit ça à ses disciples avant la croix. Vous êtes pur. Et il dit qu'il y en a un qui n'est pas pur. Il connaissait Judas. Judas, il venait de sortir. Lisez bien les Écritures. Judas était du malin. Il venait de sortir. Sa nature n'était pas pure. Ce n'était pas la même que celle des onze. Et comme Caïn, Judas pratiquait le péché, l'erreur, aux yeux de Dieu. Et les autres, les onze, bien qu'imparfaits, ils étaient vus comme entièrement purs, avant même que Jésus n'ait versé son sang sur la croix. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Votre pureté n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais avec ce que vous êtes. Et si malgré le fait que Jésus vous voit pur, vous arrive de commettre quelques péchés, il ne vous regarde pas comme ayant péché, il vous regarde comme étant pur. Et il dit, il suffit pour vous de vous laver les pieds les uns les autres, Jean 13, 10. Celui qui est baigné, celui qui a été purifié par Dieu, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Voilà pourquoi il faut pratiquer le lavage des pieds. Vous êtes déjà pur, mais comme on est au contact du monde, il nous arrive de faire des bêtises, des péchés. Ah, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Oui, ben, celui qui est dans le monde, il lui arrive de commettre des trucs, des choses pas bien. Et alors, nous confessons nos péchés les uns aux autres, comme dit Jacques. Hein? Et alors, à ce moment-là, eh bien, nous pouvons pratiquer le symbole de ce qu'est le pardon fraternel que nous nous accordons les uns aux autres en se lavant mutuellement les pieds. Une fois bien compris, ces textes-là ne se présentent plus du tout comme une condamnation pour les enfants de Dieu. Jean 3 ne se présente plus du tout comme une condamnation quand il l'est bien compris. La foi vient de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Il n'y a, mes frères et sœurs, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas une jolie petite phrase mise comme ça au milieu d'autres versets. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas tout compris, réécoutez ce message. Il est libérateur. Que Dieu vous garde dans sa paix. Merci Jésus. Merci de m'avoir inspiré ce message et permet que chacun et chacune puisse vraiment voir la lumière et ne se sente pas accusé par ce texte de Jean chapitre 3 en disant « Oh, mais alors je suis du diable puisqu'il m'arrive de pécher. Alors peut-être la semence de Dieu n'est-elle pas en moi puisque de temps en temps je fais un péché. » Non. Mon Dieu fait qu'ils aient la bonne compréhension spirituelle de ces choses afin d'être libres, affranchis par la vérité. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Dimanche, c'est notre frère Alain Mesme qui va prêcher parce que le samedi soir, mon épouse, enfin le samedi toute la journée, mon épouse et moi sommes à un mariage, donc nous ne serons pas à la communauté et donc voilà, c'est notre frère Alain qui apportera le conseil de Dieu. Venez écouter et soyez bénis. Au revoir.